Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour! Oula, pas tous en même temps! Oula, pas trop fort, pas trop fort! Pas mal à la tête! Attention, hein, doucement! Il est 16 h du matin, bonjour! Ah, bonjour, bonsoir. Mais ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que y a Game of Roll, ils font leurs émissions le jeudi, du coup après ils boivent des coups, du coup on les rejoint. Puis bon, vous les connaissez, hein, je veux dire Fibre Tigre, Daz, Mister MV, Viktorovitch, voilà, c'est pas des gens fréquentables. C'est pas des gens fréquentables. Enfin, ou alors à vos risques et périls, quoi. Bonjour, peux-tu nous dire où tu as acheté ton t-shirt? Ah, je l'ai. Je l'ai trouvé dans une boutique incroyable, une boutique en ligne qui fait des... Mais pourquoi il est... Pourquoi j'ai une trace là? Okay. On dirait du maquillage. Je sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, utip.io slash Jean Massier. Voilà, meilleur endroit pour acheter des fringues. Est-ce que ce t-shirt fait revenir l'être aimé? Ouais. Ouais. Est-ce que vous allez bien? Des petits yeux. Ah ouais, non, je suis. Oula. Est-ce que vous allez bien? Salut tout le monde, tu stream pas les débats retraite? Non, je suis pas en état. Visiblement, le merge backseat ne cancelle pas la gueule de bois. Non, malheureusement. Malheureusement. Bah écoute, ça va et toi, le retour de backseat, t'es content? Ah oui, je suis content.
Content. Est-ce qu'on te verra à la manif demain?
Peut-être, si vous êtes sage. Ah merde, attendez. Excusez-moi. J'envoie un message. Putain, hier, je suis sorti de chez moi pour aller à Backseat. Et j'ai claqué la porte et j'avais oublié mes clés à l'intérieur. La grosse relouterie de la journée. Mon gardien avait pas de double des clés, évidemment, sinon c'est pas drôle. Du coup, il m'a envoyé le numéro du serrurier du quartier, qui est venu en 5 minutes, qui a ouvert ma porte en 2 minutes. Et qui m'a délesté de 110 euros. La journée commençait bien. Et en plus, il paraît que 110 euros, ça va, c'est... Il y a bien pire. En vrai, c'est pas dégueu. En vrai, c'est pas dégueu. Ça aurait pu être bien pire. Il a ouvert la porte très facilement. Bon. Avec la radio, là, le coup de la radio. C'était juste une porte claquée. Donc voilà, bon, bah, je me suis délesté de 110 balles. Après, je... Donc j'étais bien là, je commençais bien la journée. Après, je suis allé chez mon barbier de quartier pour me faire la barbe pré-backseat. Et mon barbier, il m'a dit, ouais, ça fait plaisir de te revoir, putain. Il a cartonné ton tweet la dernière fois sur les réseaux sociaux et tout. Je savais pas que t'étais quelqu'un de connu. En plus, apparemment, il y a un abonné, quelqu'un parmi vous est allé chez mon barbier pour aller se faire une coupe en disant, ouais, j'ai vu Jean Massier, tout ça, machin. Et du coup, il m'a dit, putain, ça fait trop plaisir, merci et tout. Super sympa. Donc voilà, ça me fait plaisir. Je vous donnerai pas l'adresse, hein, mais il y en a qu'on trouvait et voilà, ça me fait plaisir. Demande à ton concierge, ces radios, ça te fera économiser des sous. Oui, enfin, je vais surtout filer un double des clés à quelqu'un du quartier ou à mon gardien déjà pour commencer. Sponso Barbier, ouais. Sponso Barbier. Hier, un amendement a été voté, puis finalement, il y a eu un autre vote et la loi n'a pas été votée. Il y a une hiérarchie dans les votes. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il y a toujours la possibilité pour le gouvernement de demander ce qu'on appelle une deuxième délibération. Le gouvernement a le droit de demander au Parlement une deuxième délibération. Voilà. Et du coup, ouais, du coup, hier, c'était la niche socialiste. Désolé, j'ai pas streamé hier matin parce que j'étais dans un état de fatigue. D'humeur générale, en ce moment, je suis très très fatigué. Il fallait absolument que je dorme. Amendement passé, puis loi pas adoptée. Ah, c'est dans cet ordre-là? Eh ben voilà, bah vous avez la réponse. L'amendement a été adopté, mais à la fin, il faut voter la loi dans son ensemble. Et là, s'il y a une majorité qui rejette la loi, qu'elle soit amendée ou pas, ça change rien. Donc c'était pas une deuxième délibération, c'était une loi rejetée. Ok. Cette histoire des repas à 1 euro à une voix près, c'est fou. Ouais. Ouais, à une voix près, les socialistes ont échoué à faire passer une loi, bon, qui de toutes les façons n'aurait pas été adoptée par le Sénat, mais comme l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot, potentiellement, sur un vote solennel, ils auraient pu l'obtenir. Chaque amendement est voté, puis c'est le tour de la loi, c'est bien ça. Chaque amendement est voté, puis chaque article est voté, après avoir été amendé. Puis on passe à l'article suivant et ainsi de suite. Et quand il n'y a plus d'article, on vote une bonne fois pour toutes sur l'ensemble du texte. Et ensuite, ça part au Sénat. Pourquoi le Sénat ne l'aurait pas adopté? Parce que le Sénat, à majorité les Républicains, n'aurait probablement pas adopté cette mesure. Mais c'est pas grave, l'Assemblée nationale aurait pu avoir le dernier mot. Mais il aurait fallu que le texte revienne à l'Assemblée et que l'Assemblée le vote une deuxième fois. Il ne s'agit pas de remporter un vote. Une fois, il faut confirmer ce vote en deuxième lecture. Donc si on vote pour 90% des amendements mais 60% contre la loi passe pas. Oui, c'est ça. En vrai, les socialistes ont eu une majorité de hasard hier sur l'amendement à 1 euro. Pour un vote solennel, les partis de droite dont la majorité aurait rappliqué pour faire barrage. Oui, complètement. Oui, complètement, bien sûr. Non, ils ont eu un coup de bol qui leur a permis, c'est ce que je vous dis toujours, les niches parlementaires, ça sert aux groupes d'opposition à avoir l'attention médiatique. La preuve, on est en train d'en parler. Donc c'est déjà une forme de victoire pour les socialistes qui ont réussi à imposer le thème du repas à 1 euro pour les étudiants, le thème de la nationalisation d'EDF. Voilà, donc la victoire, elle est là. Combien d'allers-retours entre les chambres? Deux. Première lecture, deuxième lecture. Puis vote définitif. La nationalisation d'EDF, ça va être tendu que ça passe au Sénat. Ouais. Après, bon. Après, c'est particulier parce que la nationalisation d'EDF, c'est un truc qui avait été aussi porté par Renaissance. Donc, j'ai manqué à une info de la nationalisation d'EDF, ils refont le chemin inverse de la privatisation. Ouais. Ouais. Il y a une volonté de reprendre le contrôle sur EDF, notamment sur l'outil productif. Bon, après, il faut discuter des modalités, etc. Mais ça, pour le coup, c'est assez partagé dans le paysage public. Je ne sais pas si on doit dire malheureusement, mais jamais les partis d'opposition n'arriveront à faire voter une loi vide, pas vide, contre l'avis de la majorité dans la configuration actuelle. Ça s'appelle la démocratie. La minorité est minoritaire. Et non, elle peut pas faire voter contre l'avis de la majorité. Pareil pour les élections. C'est pas le minoritaire qui remporte l'élection, c'est le majoritaire. Bah, c'est pareil pour les votes des lois. L'avortement dans la Constitution, c'est pas mal parti pourtant. Ouais, ils l'ont fait adopter au Sénat, je me souviens plus. Ah oui, si, 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 oui, si, c'est ça. Le Sénat a adopté une version différente du texte, vidant de son sens en grande partie la proposition de l'IVG dans la Constitution. Donc, a priori, le processus est bloqué. À ce stade-là, le Sénat et l'Assemblée ne sont pas d'accord sur la manière d'écrire l'IVG dans la Constitution. Et donc, a priori, on bloque. À ce stade-là. Ils ont remplacé droit par liberté. Ils ont remplacé droit par liberté, ouais, et ils ont écrit différemment le texte, donnant lieu à une manière différente de voir les choses. Pas du tout concernant la nationalisation et Renaissance. Renaissance voulait acheter 100% des parts, pas renationaliser. C'est-à-dire que ça revient au même. Même si l'État est déjà majoritaire. Est-ce que quelqu'un sait si l'État a le droit d'imposer le rachat de n'importe quelle entreprise? Oui, l'État a le droit d'imposer le rachat de n'importe quelle entreprise. L'État a le droit de nationaliser, on appelle ça nationaliser une entreprise. L'État peut prendre le contrôle d'une entreprise, alors il y a des règles. Il doit indemniser les actionnaires à qui il retire leurs actions, mais ouais. De la même manière que l'État a le droit de pré on appelle ça aussi un droit de préemption lorsque l'on parle des terrains, par exemple. Si tu es propriétaire d'un terrain ou d'une maison, et que cette maison est à un emplacement sur lequel l'État a l'intention de construire quelque chose, il y a des procédures qui sont prévues. L'État va te racheter ta maison. Si tu t'y opposes, l'État a la possibilité de te forcer à vendre ta maison, ce qu'on appelle ça la déclaration d'utilité publique. Il y a des procédures, hein, tu peux contester en justice, etc. machin, tu peux négocier les prix, il y a des règles. Mais ouais, on peut préempter en disant je prends. C'est l'État ou une collectivité territoriale. Oui, effectivement, je ne suis pas rentré dans le détail, c'est la puissance publique. Voilà, on va dire la puissance publique, préfecture, collectivité locale, etc., a un droit de préemption. Différence entre renationalisation et statut d'EPIC à but non lucratif. C'est vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement. C'est pas parce que tu as 100% des parts que tu es une entreprise nationale. Tu restes un EPCI, un EPIC, pardon, un établissement public industriel et commercial. EPIC. À ne pas confondre avec EPCI, qui veut dire établissement public de coopération intercommunale. Rien à voir. Du bon droit administratif comme on aime. Ah, le droit administratif, le bonheur. Sinon, Renaissance n'aurait pas quitté l'Assemblée au moment du vote. Ah bah voilà, ça aussi, c'est un truc que les socialistes ont réussi à obtenir hier. Ils ont réussi à obtenir le départ des députés de la majorité de l'hémicycle, montrant leur fébrilité sur le sujet. Donc ça aussi, c'est une forme de victoire en termes de communication politique, puisque à l'occasion de leur niche parlementaire, les socialistes ont réussi à démontrer que le gouvernement, la majorité n'arrivait pas à être majoritaire, à se faire entendre au point de quitter la salle de réunion, quoi. Donc c'est une forme de victoire. C'est ce qui peut arriver quand on n'a pas de vraie majorité à l'Assemblée. Bah, la preuve que oui. La preuve que oui. Bon, et sinon, Baxit, ça vous a plu? Alors, moi, j'étais très content de l'émission d'hier. Elle était très chouette. J'avais juste une frustration, c'est que on était très contraints en termes de temps. Parce que. Mais c'est des choses qui arrivent, hein, et c'est pas grave. Je trouve qu'on a quand même réussi à très bien s'en sortir. Parce qu'en fait, on avait une invitée qui de, enfin, c'était Émilie devait absolument partir à 20h30 pile, et François Ruffin arrivait à 20h30 pile. Donc du coup, on a un peu chamboulé le déroulé de l'émission, mais c'est normal. Hein, de toute façon, ça, j'avais dit que cette saison, on pourrait déroger à la règle et organiser les émissions comme bon nous semble. Et donc tant mieux, on s'est adapté. Et donc du coup, c'est juste que j'ai une micro frustration parce que moi, sur le plateau, je me suis senti contraint par le temps en mode il faut qu'on accélère un peu et tout. Je me suis senti plus stressé que d'habitude, mais c'est parce qu'on avait cet enjeu-là, voilà. C'est pas grave. Si ça s'est pas vu pour vous, si vous avez quand même eu des séquences qui vous ont plu, tant mieux. J'ai pas pu voir le replay arrive quand sur YouTube. Il est déjà sur YouTube en intégralité pour les tipeurs. Les gens qui soutiennent l'émission. Ça s'est pas vu du tout? Bon, tant mieux, écoute. Non, mais c'était cool. Le Bifor était vachement bien. Moi, je suis très content qu'on ait parlé des livreurs et de la situation des livreurs. En plus, c'était vraiment hyper intéressant. Olivier et Leïla ont vraiment été top. Hyper pédagogue, super intéressant. Et puis vraiment, l'actualité, enfin vraiment dans l'actualité, moi, j'étais super impressionné quand Olivier nous expliquait à quel point ça a évolué ces derniers temps en très peu de temps. Genre, c'est littéralement un métier qui est né il y a 7 ans, qui a connu des évolutions impressionnantes en très peu de temps. Enfin, c'était très très intéressant. J'ai juste buggé sur le se faire livrer à 2h du mat des packs d'eau qui fait ça. Bah, il y a des gens qui le font. Du coup, je ne sais pas s'il faut utiliser Deliveroo ou Uber Eats ou pas. C'est une question de choix personnel, mais il y a des systèmes de livraison qui ont des livreurs sous statut salarié. C'est pas tous le cas, mais il y en a. Il y en a. Si tu préfères, tu peux utiliser plutôt ces applications-là plutôt que Uber Eats, Deliveroo et tout, qui eux utilisent donc des indépendants et qui ont signé la charte sur la lutte contre le travail dissimulé, qui du coup fait qu'ils ont fermé le compte à plein de livreurs sans papier. Enfin bref, c'est pas évident. Et il y a aussi des coopératives locales de livreurs. Ouais, il y a aussi des livreurs qui ont créé ensemble leur propre coopérative de livraison. Ouais, ça existe. Oui. Salut Claire. Coucou. Trouvais ça dommage que la facilité avec laquelle contournait la loi sur le porn qui se prépare n'ait pas été que très peu traitée. Ah si, on l'a traité, bah si. Si, si. Alors du coup, là, oui, la séquence sur le porno était hyper intéressante. C'était chouette. Là aussi, on a essayé de faire de la pédagogie à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue de l'éthique du métier, etc. Et donc, on a abordé. Enfin, j'étais assez content de la séquence à la fin. Émilie était top. Émilie était vraiment top. Vraiment super, super pédago et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très cool. Et sur la solution technique, j'espère que vous avez compris le principe du double anonymat. La légèreté du truc, à qui est concerné par le sujet. Ça a été très peu traité, ça a duré une question dont la réponse était juste, bah ils vont pas le faire, lol. Bah quoi, tu t'attendais à quoi? Est-ce que c'est possible de revoir l'émission? Bien sûr, c'est possible de revoir l'émission en intégralité dans les vidéos de ma chaîne Twitch. Si tu es abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner en utilisant par exemple ton compte Amazon Prime si tu en as un. Et si tu n'en as pas, c'est pas grave, avec une simple carte de crédit, tu peux t'en sortir très facilement en deux clics. Ou alors, si tu soutiens Backseat en faisant un don, tu deviens Fire Tipper au-delà de 10 euros de don. Et ensuite, sur le Discord, tu as un salon qui est réservé aux Fire Tipper dans lequel vous avez le lien de l'émission en intégralité. Et sinon, il faudra attendre dimanche. Merci Elinaël, merci Blojantin, merci beaucoup. Des invités étaient très sympas. J'espère qu'il y aura un jour une actu autour des TDS qui permettra d'inviter un membre du Stras. Bah on a discuté avec le Stras hier pour avoir des invités. Après, on a fait en fonction de ce qu'on a pu. Des personnes disponibles et tout. Il y avait Act Up aussi. Enfin, non, non, mais vous inquiétez pas. Oui. Ils étaient partants. À quand le retour de Backseat? Ah, c'est une excellente question, ça. Merci Nechuo. Merci Dark Inral. Raphaël, très bonne découverte, mais légèrement décalée avec le ton d'habitude, à voir dans le temps. Ah ouais, c'était la première de Raphaël hier, Raphaël Lorca. Bah, j'étais content, c'était une première pour lui. Et oui, bah Raphaël, c'est Raphaël. Hein. C'est aussi ça qui est bien quand on a des chroniqueurs, c'est qu'on a qui sont différents les uns des autres. Tu vois, t'as Chloé, elle est haute fonctionnaire. Raphaël, il travaille sur le sujet de la communication. Et Usul, c'est Usul. Bah voilà, ça fait trois points de vue différents, trois approches différentes de l'actualité. C'est cool. Moi, j'ai beaucoup aimé, je l'ai dit à Usul ce matin, j'ai beaucoup aimé leurs échanges sur les retraites quand ils ont commencé à discuter entre eux. J'étais en mode, trop bien. Non, mais allez-y, continuez, hein, c'est hyper intéressant. Vos échanges sont intéressants, je vous laisse faire, allez-y, allez-y. Usul, c'est Usul. Ah, oh, c'est Usul. Chloé, haute fonctionnaire, le tapir. Ah oui, Chloé, haute fonctionnaire qui sait pas ce que c'est qu'un fakir. Chloé qui adore le quiz à la con. Ça se passe comment d'ailleurs pour Chloé? Les hauts fonctionnaires ont le droit de prendre des boulots à côté comme ça? Curiosité du moment, désolé, je sais pas. Oui, je crois. Mais je sais pas dans quel cadre, j'en sais rien en fait. Comment tu choisis tes chroniqueurs? Ils sont tous différents mais hyper pertinents. Ben voilà. Je les choisis sur critères de pertinence. Ils doivent faire une demande de cumul d'activité, ouais. Je suis novice sur Backseat, mais est-ce qu'il y a des chroniqueurs permanents ou récurrents? Non, cette année, les chroniqueurs vont tourner. Vous allez avoir des nouveaux chroniqueurs qui vont pointer le bout de leur nez de temps en temps, qui vont Il y en a qui veulent revenir plus souvent que d'autres. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'actu. Ça dépend de qui est dispo. Ça dépend de qui a envie. Ça dépend de plein de trucs. Mais donc, on a un pool de chroniqueurs et de chroniqueuses et on pioche dedans semaine après semaine. Voilà. Et on enrichit le pool avec de nouvelles personnes, etc. Ils vont tourner sur eux-mêmes. Vous avez des poules? Les chroniqueurs sont rémunérés, oui. Faites des dons pour financer Baxit, son équipe technique, son équipe éditoriale, son équipe de production. Merci pour vos dons d'ailleurs, je rigole, mais en fait merci pour vos dons, surtout ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a un accès PMR pour assister à l'émission? Ouais. Claire Lejeune est un peu au-dessus en termes d'analyse. J'aime beaucoup les analyses de Claire, oui, c'est vrai. Est-ce qu'elle est au-dessus? J'en sais rien, moi je fais pas de hiérarchie, hein. Mais oui, Claire est topissime, hein. Comment assister aux émissions? Tu vas sur utip.io/Jean Massier, tu cliques là, regarde, c'est dans le chat, tu cliques sur le lien. Tu vas dans le shop et tu prends ta place pour le jour qui t'arrange. Raphaël, j'aime bien, mais parfois il a du mal à se couper. Ah, mais Raphaël, il a le défaut des débutants. C'est qu'il sait pas faire des questions courtes. Mais c'est pas grave, il va apprendre, hein. Claire, c'était pareil, la première émission, Claire, elle nous faisait des tunnels. Je la regardais, j'étais en mode Claire. C'est quoi ta question là? Posant une seule, parce que là, t'en as posé sept. Du coup, elle a rigolé, elle a fait non, mais c'est vrai, faut que je progresse là-dessus. Et donc, Raphaël, pareil, hein, il nous a fait son tunnel hier. Raphaël, on va retravailler les questions. Il se passe quoi si on n'atteint pas les 300 000 pour la campagne de financement? Eh ben on est dans la merde. On verra. Soit on fera moins d'émissions, donc on terminera la saison plus tôt. Soit il faudra qu'on fasse plus de before sponsorisés. Donc ouais, c'est un challenge. Il reste combien de temps pour le crowdfunding? On est en train de travailler pour relancer la campagne de crowdfunding. On va bosser dessus. On va bosser sur la meilleure manière de relancer la campagne de crowdfunding pour que toutes les personnes qui aient donné reçoivent des contreparties, que les personnes qui n'ont pas encore donné soient incitées à le faire, etc. On va complètement retravailler la campagne pour la rendre plus smooth. Est-ce qu'il y a déjà eu des sponsors sponsorisés? Alors pas encore cette saison, mais c'est normal, elle vient de redémarrer la saison, mais a priori ça va arriver là. C'est un vrai taf. Ah ouais, non, on bosse beaucoup. En ce moment, je vous cache pas que Before, ça demande du boulot. Mais bon, tant mieux, hein, c'est pour financer l'émission, donc on est content. Pourquoi ne pas mettre des pubs pendant vos pauses? Rapporte rien. J'avoue que je comprends pas trop la ligne édito des Before sans sponsor. En quoi c'est différent des invités d'actu? Bah en fait, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Les Before non sponsorisés, on fait ce qu'on veut. C'est nous qui décidons. C'est-à-dire quand il n'y a pas de sponsor, bah ça fait une demi-heure de Before au cours duquel on s'autorise, si on le souhaite, à parler d'un sujet parce qu'on en a envie, à faire témoigner des gens parce que ça nous intéresse, à présenter des assos. On l'a pas encore fait, mais bah si. On vous a présenté des syndicats de livreurs, on vous a présenté des syndicats d'artisans boulangers, on vous a présenté, enfin voilà. Donc voilà, les bifors, on fait ce qu'on veut. Du coup, la saison prochaine, le but, ce serait de trouver des sponsors avant même la première émission. Oh, tout de suite, la saison prochaine, j'en sais rien, moi. Oui, bah, oui, bah, oui. Oui, trouver de l'argent avant d'en avoir besoin, ce serait mieux, oui, mais bon, une fois que t'as dit ça. Un soutien du CNC est-il possible? On va y travailler, on va essayer. T'avais pas dit que t'inviterais plus d'intellectuels et de scientifiques? C'est pas trop le cas pour l'instant. Bah, dans les invités actus, si, hier, on avait un scientifique, hein. Enfin, on avait un expert en informatique, prof à Polytechnique, qui est venu nous parler des solutions de double authentification. On avait Émilie, qui est une professionnelle du porno depuis 20 ans, qui est quand même un peu plus experte que n'importe qui autour du plateau pour parler de l'industrie porno. Voilà. Bon, la semaine dernière, on avait Manès Nadel, mais c'était un peu particulier. Effectivement, c'était pas un expert. As-tu déjà refusé des sponsors type Niel ou gros investisseurs dans les médias? Non. Anis en intelligence artificielle. Ah, mais oui, Anis! Anis, Defend Intelligence, qui était venu nous parler d'intelligence artificielle, est vachement plus expert que vous et moi, hein, donc voilà, c'est un expert. Merci, Ralzifal. J'avoue ne pas très bien avoir compris le fil directeur de l'interview de Ruffin. Ah bon? Le fil directeur de l'interview de Ruffin. Eh ben écoute, nous recevions François Ruffin, un député célèbre de la France insoumise, qui a mené une évolution programmatique et tactique au cours de l'automne dernier en sortant un livre. Qui promeut une autre approche que celle habituelle de la France insoumise, qui porte ça dans ses combats dans l'hémicycle, et qui nourrit peut-être, on ne sait pas, des ambitions pour 2027. Voilà. C'est le fil directeur, c'était qui êtes-vous, monsieur Ruffin? De quoi le ruffinisme est-il le nom? C'est vrai que c'était une interview un peu philo hier, mais c'est un choix qu'on a fait avec les chroniqueurs. Quand on a préparé l'émission avec les chroniqueurs, on s'est dit, bon, Ruffin, qu'est-ce qu'on a envie de lui poser comme question? Qu'est-ce qui est pertinent de lui poser comme question? Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au public et tout? C'est les questions qu'on se pose à chaque fois. Bon, bah, le choix qu'on a fait, c'était essayer de comprendre. Raphaël, comme c'est un linguiste, il nous a dit, mais moi j'aimerais bien l'interroger. En plus, c'est l'intérêt de Raphaël, c'est que c'est un spécialiste de ça. Donc lui, il voulait l'interroger sur les mots, sur les... etc. Donc c'était intéressant. Enfin voilà, non. Après, on aurait pu, mais bon, c'est pas l'angle qu'on a choisi, ça m'aurait emmerdé, mais on aurait pu faire une interview technique en parlant des amendements, en parlant. Enfin, vous me connaissez, hein, moi, si on me laisse le champ libre, je te fais une interview full institution, parlement, procédure, parce que je suis chiant avec ça. Mais c'est ça qui est intéressant avec Backseat, c'est comme on a des approches différentes de l'actualité politique avec mes chroniqueurs, on a chacun de nos manières d'aborder les choses. Usul a une fibre très liée au mouvement social. Raphaël a une fibre très liée à la sémantique, à la communication, à l'image de marque, au récit. Claire a une fibre très écolo. Chloé a une fibre, elle aussi écolo, tu me diras, mais bon, ouais. Léa a une fibre féministe. Bon, voilà, ça dépend des chroniqueurs. Tu lui as déjà posé la question présidentielle. Ah bah il fallait que je la pose. Il fallait que je la pose. Mais il m'a fait marrer Ruffin avec sa réponse. T'as bien compris que je répondrais pas à ta question. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Vas-y, vas-y, déroule, déroule. On parlait de langue de bois tout à l'heure. Allez-y, monsieur Ruffin. Faites-moi une magnifique non-réponse à ma question. Voilà. Vous avez vu ce que c'était que de la langue de bois. C'était intéressant de l'entendre ne pas inciter plus que ça à rejoindre LFI ou un parti. Mais oui, évidemment. C'était la question piège. C'était la question piège. Est-ce que vous incitez les gens à rejoindre les filles? Monsieur Ruffin. Oh, je suis mesquin. Oh, c'est une bonne question. Pourquoi rien sur Quatennens? Ah bah t'as vu ce qui se passe quand on pose des questions sur Quatennens? Oh, le sujet qui fâche. Oh. Non, je rigole, évidemment. Non, on n'a pas posé de questions sur Quatennens à Ruffin parce que Ruffin s'est fait virer de la direction du parti, je vous rappelle. Hein. Donc je veux dire, s'il y a bien un mec qui est pour rien du tout dans cette histoire de Quatennens, c'est bien François Ruffin. Si tu veux que je lui pose comme question sur Ruffin, sur Quatennens, j'ai pas demandé à LFI. C'est vrai que... Tu peux nous expliquer comment est géré LCP? On s'en branle un peu de la gestion d'LCP, non? De toute façon, vous la regardez pas, donc... Il n'a pas été viré, il n'a jamais été. Oui, c'est vrai, il n'y a jamais été. Mais alors, au demeurant, François Ruffin, vous le savez peut-être pas, mais lui, il n'aime pas du tout ça, hein, la vie des partis, ça l'emmerde. Ruffin, il n'aime pas les partis politiques, les intrigues de pouvoir en interne au parti, ça le fait chier, ça l'a toujours fait chier. Il a raison, c'est chiant, ça fait rien avancer. C'est quand même utile, l'appareil politique, pour mener des combats, pour se coordonner, s'organiser, gagner des élections et tout. Il en a conscience, hein, d'ailleurs, Ruffin, il... Excusez-moi, je réponds. Non mais alors donc du coup ouais c'est parce que on est autour du sujet Quatennens justement donc c'est hier pendant l'émission Backseat que Jean-Luc Mélenchon était l'invité de BFM TV pour une émission spéciale sur le sujet de la réforme des retraites et que à la fin de l'émission une question lui a été posée sur Adrien Quatennens et que Jean-Luc Mélenchon s'est énervé contre la question. Contre les journalistes et a même décidé de quitter le plateau. De quitter le plateau, ce qui a fait beaucoup réagir. Il s'est un peu fâché. Ce qui a fait beaucoup réagir et. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin un politique qui quitte un plateau en colère. Et en colère contre les journalistes qui ne l'ont pas prévenu que la question allait lui être posée. Ça pose plein de questions sur la méthode d'organisation des interviews politiques, sur comment travaillent les rédactions, comment sont choisies les questions, est-ce qu'elles sont dealées, etc. Une mélanchonnade. Ouais. Il aurait pu s'y attendre quand même. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Mais c'est surtout ça, en fait, que je trouve intéressant et triste pour Jean-Luc Mélenchon dans la séquence, c'est que dans cette séquence, Jean-Luc Mélenchon a apporté une information. A apporté trois informations. Il a apporté l'information qu'il a toujours un problème avec les journalistes et que ça n'a pas changé. Toujours dans une logique de conflictualisation. Et ça, bon, tu me diras, on le savait déjà, mais ça fait mal à son image et il le sait. Il a apporté l'information qu'il est extrêmement fébrile sur la question d'Adrien Quatennens. C'est pas du tout une question anodine et que ça le touche. Enfin, il était même ému, quoi. Jean-Luc Mélenchon ne gère pas l'affaire Quatennens en chef de parti, mais en rapport humain, en amitié, en. Et donc ça aussi c'est une information, une terrible fébrilité sur le sujet, qui montre que la question le dérange au plus haut point. Et ensuite il a lui-même apporté l'information qu'il ne tient pas 2 heures d'interview. Et ça c'est aussi une information dont on parle assez peu, mais il est fatigué, Jean-Luc Mélenchon. C'est pas lui faire injure que de dire, parce qu'il le dit lui-même, que il a plus toute sa jeunesse, il est fébrile. Voilà. Donc, et c'est malheureusement pour lui, ces trois informations ont pété au visage du public qui a regardé cette interview hier, quoi. Et je suis pas sûr que ça aille dans le sens de son image pour ses électeurs potentiels en 2027, etc. Bon. Je comprends pas si sa protection de Adrien Quatennens, Bayou ou Bouafs ont été détruits sans soutien de la NUPES. Bah la différence, elle est que Adrien Quatennens est un proche de Jean-Luc Mélenchon. Et quand je dis un proche, on peut même parler d'un potentiel successeur à Jean-Luc Mélenchon, etc. Je veux dire, Adrien Quatennens était le coordinateur national de la France insoumise, ce qui, dans le jargon insoumis, veut dire le chef. En tout cas, le chef technique organisationnel du parti, Jean-Luc Mélenchon restant le chef politique du parti. Donc, c'est pas n'importe qui dans le parti. Taha Bouhafs, ce n'était finalement rien d'autre qu'un candidat potentiel à une investiture dans une circonscription. C'est plus facile de se débarrasser d'un Taha Bouhafs que d'un Adrien Quatennens, dont Jean-Luc Mélenchon est proche de notoriété publique. On touche à quelqu'un qui est plus proche du chef politique du parti. Donc c'est normal que ce soit moins aisé pour Jean-Luc Mélenchon. C'est son fils, sa bataille, le fruit de ses entrailles. Ouais, on n'est pas loin de ça. Quoi, 1000 balles? Comment ça, il y a eu 1000 balles? 1000 balles, 1000 balles, il y a eu 1000 balles! 1000 balles!
Combien?
1000 balles!
Combien?
1000 balles, merci beaucoup! Merci beaucoup pour les 1000 balles! Incroyable! Merci beaucoup pour les 1000 balles à Baxit, ça fait super plaisir. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Vous êtes incroyable. Merci pour vos dons. Merci pour les 1000 euros, c'est très généreux. Merci aux personnes qui donnent 10 balles aussi, c'est aussi très généreux. Merci à vous. Merci pour tous vos dons. Merci à vous. Du coup, toi, Jean, si la condition de quelqu'un que tu veux inviter à Baxit est d'éviter une question, tu refuses, ou tu fais semblant d'accepter et tu te fous sous le nez une fois l'invité présent. Ça m'est déjà arrivé de refuser d'inviter un politique dans une émission de Baxit parce qu'il nous avait demandé de ne pas lui poser les questions sur un sujet. Or, c'était un sujet que j'estimais d'intérêt, d'actualité. Et sur lequel j'avais l'intention, de prime intention, de lui poser des questions. Donc j'ai dit, bah dans ces conditions, non. Non. Voilà. Ça m'est arrivé une seule fois, mais c'est pas grave. Et c'est pas grave. Donc bah, j'ai dit, bah non, du coup, je m'intéresse pas. Ça aurait été un autre truc, genre, ne me posez pas de questions sur le rapport machin qui a été rendu au Parlement. Oui, alors je vous avoue qu'on n'avait pas du tout l'intention d'aborder ce sujet-là, donc ça va régler le problème. Ça peut arriver, hein, mais en fait, ça arrive jamais. Pour que vous compreniez, en tout cas, nous, le process qu'on a des invitations de personnalités politiques dans Backseat, on contacte leur entourage, on les contacte directement, ça dépend. On a un journaliste programmateur qui s'occupe de ce travail-là. Qui s'occupe de ce travail-là et qui donc invite sur le plateau de Backseat. Maintenant, on a la chance parce que Backseat commence à avoir une notoriété importante. Donc maintenant, ça y est, les gens savent ce que c'est que Backseat et les politiques sont souvent honorés d'être invités dans Backseat. Donc c'est cool. On essaie de caler la date et c'est ça le plus dur, évidemment, parce que Backseat est une émission en direct. Donc on ne peut pas être arrangeant sur la date et sur l'horaire. Hein, c'est de telle heure à telle heure, désolé. On peut éventuellement être arrangeant sur une demi-heure avant, après pour. Correspondent à l'agenda, et c'est pour ça qu'on peut bouger des éléments dans l'émission. Si ça peut marcher, tant mieux, mais on peut pas faire beaucoup mieux, quoi. Et ensuite, il n'y a pas de on ne deal pas avec les équipes du politique les questions qu'on va lui poser ou les thèmes qu'on va aborder. De toutes les manières, on leur explique bien que le thème de l'émission était une émission d'actualité politique, donc les politiques savent très bien. Les sujets, les questions qu'on va leur poser, qui sont les questions habituelles. Mais on ne prépare pas avec eux des questions. Il peut arriver qu'on. Enfin, il peut arriver, oui, on leur dit au téléphone ou à leurs équipes, ça nous intéresserait de recevoir machin parce qu'on a envie de l'entendre sur tel sujet. Ce qui est donc la raison à l'invitation. Voilà, nous, ça nous intéresse, etc. Est-ce que ça lui dirait de venir nous en parler? Évidemment, les politiques sont pas, les politiques ne viennent pas sur le plateau de Backseat pour nos beaux yeux. Ils viennent parce qu'ils y ont un intérêt, c'est normal, c'est le jeu des médias. Vous savez, je vous ai déjà dit qu'une interview politique, c'est toujours une rencontre d'intérêt. Un politique a intérêt à parler au plus grand nombre pour convertir des électeurs potentiels à leurs idées, c'est normal. En démocratie, c'est parfaitement sain, même d'ailleurs. C'est OK. Et les médias, de leur côté, ont intérêt à avoir des politiques sur leur plateau pour offrir des émissions de qualité à leur public. Donc voilà. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que quand le politique arrive sur le plateau de Backseat, nous, on prévoit une pause. Avant l'interview politique, on prévoit toujours une pause. Dans l'émission, parce que Backseat, c'est une émission qui dure entre 2h30 et 3h. C'est long. Il faut que je pisse. Vraiment, pardon pour la technicité, mais il faut que je pisse. Les chroniqueurs aussi ont besoin de pisser. J'ai besoin de souffler aussi un peu. Et j'ai besoin d'aller rencontrer le politique pour lui dire bonjour, pour le remercier. C'est ce que je fais à chaque fois. Je vais le voir et le ou la politique, etc. Je vais le voir pour lui dire bonjour, pour le remercier ou la remercier d'avoir accepté notre invitation. Et puis je papote un peu rapidement avec lui ou elle, dans un double but de lui donner suffisamment d'informations pour qu'il comprenne l'exercice. En général, il a déjà eu cette discussion avant, hein, mais c'est pas grave. C'est important que moi je le fasse, parce que c'est mon émission, c'est moi qui anime l'émission, donc c'est important que je fasse ce job-là. Lui représenter l'émission et un peu lui dire comment ça va se passer. Donc en général, ce que je fais, c'est que je lui dis voilà, merci, merci à vous. En général, je les sens fébriles et c'est normal parce qu'on est sur Twitch, parce qu'ils connaissent pas, parce qu'ils voient le plateau est impressionnant, le public et tout, donc ils sont et c'est normal, ils sont un peu décontenancés. Il y a un petit côté chat apeuré. Donc je les mets à l'aise, je leur dis voilà, merci. Bon, écoutez, et en général, je leur dis bon, on a du temps. C'est plutôt une bonne nouvelle, on a du temps pour cette interview, pour cet échange. Je leur dis en général, je leur dis toujours la même chose. Je leur dis c'est pas une matinale de radio, donc c'est pas on va pas vous couper la parole au bout d'une phrase pour vous forcer à avoir une réponse et tout. Ça, c'est un exercice particulier, la matinale de radio. Nous, on fait pas ça. Je leur dis, c'est pas non plus une conférence universitaire. Donc, ça va pas non plus être des tunnels de 20 heures où vous allez pouvoir développer une pensée, machin. C'est un mix entre les deux. Donc, ça, c'est pour le rythme et tout. Je leur explique aussi que c'est une émission qui est dans un style avec un ton particulier, beaucoup plus détendu que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ou dans les d'habitude d'aller. Donc je leur dis, voilà, il y a un côté chill. C'est une émission dans laquelle nous, en tout cas, on est à l'aise, notre public est à l'aise. Vous êtes libre de vous sentir à l'aise ou pas, mais si vous voulez vous sentir à l'aise, n'hésitez pas. C'est le moment, quoi. Enfin, c'est voilà. En tout cas, l'émission s'y prête. Donc chillax. Qu'est-ce que je leur dis d'autre? Je leur présente les chroniqueurs parce qu'ils ne les connaissent pas forcément. Donc du coup, je leur dis, voilà, je ne sais pas si vous connaissez les chroniqueurs, mais autour du plateau, nous avons, et donc là, je leur présente rapidement les chroniqueurs. Ok, très bien. Où je leur dis qu'il y a le chat sur un écran devant. En général, je leur dis, vous êtes libre de le lire ou pas. Mais vous inquiétez, enfin vous emmerdez pas avec le chat, parce qu'en fait ça leur fait très peur en général le chat, hein. Ils sont pas habitués machin, je leur dis vous emmerdez pas, enfin vous en faites pas un élément de stress et tout, regardez-nous, parlez-nous, il y a pas de problème, nous on discute avec vous, laissez tomber le chat, on en fait notre affaire, parce qu'ils sont vraiment pas habitués, donc voilà. Et voilà. Et après, je leur dis, c'est bon pour vous. Et voilà. Et alors ensuite, je ne deal pas avec eux les questions qu'on va leur poser. Je leur rappelle globalement les sujets qu'on a l'intention, nous, d'aborder. Mais je fais ça sous forme d'information. C'est-à-dire que je leur dis pas, est-ce que ça vous va? Je leur dis... je leur dis, enfin voilà, c'est dans la foulée du merci d'avoir accepté notre invitation. On est très content de vous recevoir parce qu'on voulait justement avec vous parler de ça, 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 ça. Merci de venir parce que ça va nous permettre de vous entendre sur votre manière à vous d'aborder telle actualité, etc. Et en général, les politiques sont pas du tout surpris. Genre, ils le savent qu'on va parler de tel sujet. Ils savent très bien qu'on les a pas invités pour leurs beaux yeux, hein. Donc, ils sont pas surpris du tout. À chaque fois, ils me disent, oui, oh, très bien, ok. Je me dis, ils sont en mode, non, d'accord, ok. Enfin, je veux dire, 100% des politiques sont venus, ils m'ont toujours dit, oh, posez-moi des questions, hein, pas de problème. Je suis là pour ça. Hein, Et alors, l'autre truc que je voulais vous dire, c'est qu'il faut bien. Moi, ça fait maintenant 7 ans, hein, que j'interviewe des politiques. J'ai dû en interviewer quand même plus d'une centaine. Les politiques font pas de la politique pour rien. Ça fait un lien avec ce qu'on disait la semaine dernière sur la sincérité de l'engagement. Les politiques, ils aiment la politique. Et quand je dis qu'ils aiment la politique, les politiques, là où ça se traduit, c'est que les politiques, ils aiment bien. Quand on aborde les sujets qui fâchent. Faut pas croire que les politiques sont des petites choses fragiles, hein, ils sont pas en sucre. Les politiques, ils font de la politique. Ils sont dans un combat personnel, un engagement pour leurs idées, pour leurs projets, en faveur ou en défaveur d'un gouvernement, etc. Machin. Ils sont contents quand on parle des sujets qui fâchent. C'est pas leur rendre service que de leur poser des questions hyper générales en disant, alors quelles sont vos propositions en faveur de la jeunesse? Ça en fait ça les amuse pas plus que vous hein. C'est une question de merde et leur réponse va être à chier ça, voilà. Par contre quand on aborde le sujet qui fâche du moment mais ils sont contents d'en parler, ils ont des choses à dire, c'est pour ça qu'ils viennent dans les émissions politiques, les politiques c'est parce qu'ils veulent affronter les sujets quoi, voilà. En ce moment il y a une réforme des retraites, c'est un sujet qui fâche. C'est un sujet qui est tendu, mais les politiques, ils sont contents d'en parler, parce qu'ils ont des choses à en dire. Et c'est pareil pour plein de trucs, etc. Et donc voilà, et donc c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est le dispositif éditorial qui est prévu par une équipe de rédaction lorsqu'elle prépare une interview. C'est on invite un invité politique parce qu'on a des questions à lui poser. Et on a des questions à lui poser, non pas pour le plaisir de lui poser des questions, non pas pour le descendre ou l'encenser, ça va vraiment falloir sortir de ça un jour, mais parce qu'on a des réponses qu'on attend. Ça ne veut pas dire qu'on veut une réponse particulière. Oh, ça dépend, je dis ça, mais Sonia Mabrouk, parfois, elle veut une réponse précise. Chiante avec ça. Vous condamnez? Vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous dites aujourd'hui je condamne? Voilà. Ça, typiquement, c'est le genre de truc, moi j'ai horreur de ça. C'est son truc. C'est pas le mien, mais c'est comme ça. Voilà. Moi, si je pose des questions aux politiques, c'est parce que, sincèrement, ça m'intéresse d'avoir leur point de vue. J'ai une vraie question, ça m'intéresse. Hier, quand j'ai demandé à François Ruffin, c'est quoi cette social-démocratie? De quoi votre social-démocratie à vous est-elle le nom? C'est parce que j'avais vraiment envie de savoir comment Ruffin lui-même explique son cheminement, son idée, etc. Ben voilà. Alors, je peux lire des articles pendant des heures, je peux lire les bouquins de Ruffin, je peux machin. Mais je suis quand même vachement content d'avoir François Ruffin lui-même pour qu'il explique lui-même. C'est vraiment l'info à la source. C'est quoi ce ruffinisme philosophique? Expliquez-nous. Ça m'intéresse. Je veux comprendre. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'aborde les interviews politiques. Et l'autre truc qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que je ne fais pas des interviews politiques pour mon plaisir personnel. Je fais des interviews politiques pour le public. C'est que l'intérêt éditorial du dispositif que je mets en place, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vous, je le fais pour le public. Parce que je mets en place une émission qui a un angle particulier, qui a un format, qui a un ton, qui a, enfin, bref, vous connaissez, s'appelle Backseat. Et cette émission a vocation à être utile au public. Elle n'a pas vocation à m'être utile à moi, elle n'a pas vocation à être utile aux chroniqueurs, elle n'a pas vocation à être utile aux politiques. Et j'insiste là-dessus, elle a vocation à être utile au public et à avoir du sens et à apporter quelque chose au public. Moi, le critère de jugement de si une élection, de si une émission est une bonne émission ou une mauvaise émission, c'est est-ce que j'estime qu'on a apporté des choses au public. Voilà. C'est mon critère à moi, c'est comme ça que je le place. Je suis au service de mon public, je ne suis pas au service du politique, je ne suis pas au service de mes chroniqueurs, je ne suis pas au service de mon orgueil. Voilà. C'est comme ça que je conçois Backseat. Et donc voilà. Et ça, alors ça, je vous l'ai déjà dit, quand je dis que c'est à l'intérêt du public. Maintenant, je vais poser la question qui fâche. Qui sait quel est l'intérêt du public? Qui est le meilleur juge de la qualité éditoriale d'une émission? Est-ce que c'est le public lui-même? Pas sûr. Est-ce que c'est l'idée que je me fais du public? Peut-être. En même temps, c'est mon émission, donc si je me trompe, c'est mon problème. Est-ce que c'est personne? Cette question, elle peut paraître philosophique, rhétorique, un peu débile, etc. Mais c'est exactement la même question que qui sait quel est l'intérêt général? Ben, c'est une très bonne question. On a même inventé un parlement pour en débattre. Et voilà. Et donc voilà, moi j'ai toujours été très clair et très transparent sur le projet éditorial de Backseat. Où se positionne Backseat? Qu'est-ce que veut faire Backseat? À qui veut s'adresser Backseat et pour faire quoi? Je n'ai absolument aucun problème à ce que des personnes qui ne sont pas la cible de Backseat soient mécontentes du contenu de Backseat. Ça me va très bien. Très à l'aise avec ça. Ça me va très très bien. Francis Lalanne, on a dit. Peux-tu résumer quelle est la cible dans ce cas-là? La cible de Backseat, ce sont les personnes éloignées de la politique qui ont un rapport conflictuel à la politique. Voilà. C'est ça la cible de Backseat. Backseat essaye de s'adresser aux gens qui ne regardent pas d'émissions politiques d'habitude, ne lisent pas d'articles sur l'actualité politique d'habitude, ne participent pas aux débats politiques d'habitude, sont plutôt dans des comportements d'abstention. Ou de rejet même de la politique par son expression. Voilà, c'est ça la cible de Backseat. Est-ce que Backseat s'adresse à un public de gauche? Non. Non. Backseat n'a pas vocation à s'adresser à un public spécifiquement orienté sur le spectre politique. Plutôt un public jeune. Oui, par ailleurs, Backseat s'adresse plutôt à un public jeune, de par son format, sa plateforme de diffusion, son ton. Oui. Mais bon, je dis ça, mais en fait, il y a de plus en plus de vieux qui regardent Backseat, ça leur plaît beaucoup, donc tant mieux. Bienvenue, la porte est ouverte, pas de problème. Est-ce que pour toi, Backseat atteint sa cible? En partie, ouais. Oui, en partie. En partie, en partie. Backseat est aussi une émission qui est très regardée par des gens passionnés par la politique. Donc des militants, des gens qui ont un intérêt pour le sujet, des étudiants en sciences politiques, en droit, des fonctionnaires, etc. Tant mieux, aucun problème, ils sont les bienvenus, mais ils ne sont pas la cible prioritaire de l'émission. Donc ça, c'est ce que je vous avais déjà dit. Les gens qui ont des attentes très précises du type de contenu politique qu'ils adorent et qu'ils veulent consommer, si Baxit ne répond pas à cette attente, ce n'est pas grave pour moi. Je suis parfaitement à l'aise avec l'idée que ça plaise pas à tout le monde. Voilà. Donc, il y a des gens qui me disent j'aime pas Baxit parce que moi, je préférais que vous n'invitiez que des gens de gauche pour ne dire que des choses de gauche. Ben, je leur réponds, je suis désolé. Ça va m'aller. Je vais réussir à m'en remettre, que ça te plaise pas. C'est pas le projet. Il y en a d'autres qui ont ce projet-là et je t'invite à les suivre. Ils font des très très bons projets qui vont s'adresser à toi. Ils vont faire du fan service en te donnant à bouffer ce que tu aimes. Mais c'est pas le job. Est-ce que t'as les stats du public à Genreville? Ouais, je les ai, ouais. Pour le financement de Baxit, t'as pas des aides de l'État? Non, l'État n'aide pas. L'État n'a absolument pas de volonté de lutter contre l'abstention des jeunes, de réconcilier les jeunes avec la politique, tout ça. Il y a vaguement des discours qui vont dans ce sens, mais il n'y a pas un euro. Donc bon, il y a le CNC qui est un truc qui finance l'audiovisuel et la création audiovisuelle sur Internet notamment, etc. Mais donc c'est des trucs détournés, mais spécifiquement sur Baxit, il n'y a pas. T'as pas peur de perdre tes premiers spectateurs en invitant des chroniqueurs comme Raphaël hier parce que j'ai trouvé difficile à suivre pour ma part. Bah, il faut faire attention à ça, je suis d'accord. C'est ce que je disais dans la conclusion de l'émission de la semaine dernière en disant il faut faire gaffe à la manière qu'on a de parler de politique sur le plateau de Baxit parce que on risque de taper à côté de notre cible en étant trop jargonneux et trop précis et trop politicard dans notre manière d'échanger. Il faut qu'on fasse gaffe à ça. Et je le rappelle à chaque fois à mes chroniqueurs, vous inquiétez pas, ils le notent bien dans leur tête à chaque fois. Je leur dis à chaque fois attention au jargon que vous utilisez. Attention. Si on veut réussir à parler aux gens qui sont éloignés de la politique, il faut qu'on se mette à leur niveau et que donc on fasse gaffe à ne pas jargonner entre nous, entre passionnés, parce que ça peut être très facile. Donc voilà. Et oui, peut-être que Raphaël était un peu trop pointu. Après, Raphaël, c'est un littéraire. Hein. Il évolue dans des sphères qui ne sont pas les nôtres. Mais très bien, bah c'est aussi ça l'intérêt d'avoir des chroniqueurs divers et variés. Écoute, j'ai trouvé ça intéressant, ces questions sur la linguistique. Non, c'était chouette. Je crois vraiment que des personnes éloignées de la politique ont entendu parler de Baxit, je veux dire par quel biais du coup. Bah regarde, vous êtes très nombreux là, dans mon chat. Je sais pas par où vous avez entendu parler de ma chaîne, mais petit à petit, hein. Bienvenue à vous, hein. Mais donc voilà, et donc ça fait le lien avec ce que je disais sur Mélenchon hier et sur la méthodologie de préparation des émissions politiques. Je ne sais pas comment BFM travaille et prépare ses interviews politiques. Je ne sais pas. Ils se démerdent. Je sais pas ce qu'il deal ou pas avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne pense pas que BFM TV soit du genre à dealer à la question près ses interviews. Je suis pas sûr que ce soit vraiment leur genre. J'en connais des journalistes de BFM, je vois un peu comment ils bossent. C'est pas le genre. D'autant que BFM, ils ont une suffisamment grosse audience, qu'ils ont suffisamment de poids pour ne pas se laisser imposer quoi que ce soit par les politiques. Je suis même pas sûr que les politiques cherchent à dealer avec BFM. Les questions. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai interviewé Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle, hein, l'année dernière. J'ai interviewé Jean-Luc Mélenchon. C'était le débat du siècle. On a interviewé les principaux candidats à l'élection présidentielle avec Paloma Moritz pour discuter pour leur poser des questions sur leur programme en matière d'écologie, en matière de préservation de l'environnement, de lutte contre le dérèglement climatique, etc. Dans le cadre de la préparation de l'émission, on avait au téléphone en amont les équipes des candidats pour caler l'interview, pour les inviter, pour leur donner l'adresse, l'heure, tout ça. Enfin bref, voilà. Et moi, j'ai eu l'équipe de Jean-Luc Mélenchon la veille de l'émission au téléphone, qui m'ont dit, bon, on est OK pour venir demain et tout. Ils m'ont dit, après, le sujet climat est un sujet très vaste, ça prend une place énorme dans l'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon, ça peut être hyper vague comme sujet, donc, enfin. Et en gros, ils m'ont demandé si j'avais un peu plus de précision sur les thèmes qu'on avait l'intention d'aborder. Et ils m'ont dit, et ils ont eu raison de me le dire, en disant, bah, ça nous permettra de préparer le candidat, quoi. Enfin, qu'il arrive avec des trucs. Parce que si on arrive en lui disant, bah, vas-y, tu vas parler du climat, et qu'il prépare rien de particulier, il va. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai pas négocié avec eux les questions que j'allais pas. Ils m'ont pas demandé. Pour le dire autrement, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon ne m'a pas demandé de lui poser telle question ou de ne pas lui poser telle autre question. Absolument pas. Au contraire, ils m'ont demandé est-ce que tu pourrais être un peu plus précis que juste le climat? Ça nous aiderait un peu. Ça nous aiderait un peu et ça vous aiderait aussi parce que vous aurez du coup un Jean-Luc Mélenchon plus apte à apporter des réponses précises. Et donc, comme c'était dans l'intérêt de l'émission, dans l'intérêt éditorial, j'ai dit oui, ok, bah écoutez. Et donc, je lui ai dit, on voudrait. Et donc, je lui ai donné un peu les thèmes. Mais en même temps, les thèmes, bon, elle les connaissait, hein. Politique énergétique, sortie du nucléaire, démocratie, la question de la sobriété, etc. Le classique, quoi. Il n'y avait aucune surprise. J'ai fait aucune surprise. J'ai dit, bah, regarde les autres interviews qu'on a fait des autres candidats, tu verras, c'est les mêmes questions à chaque fois. Hein. C'est pas compliqué. Hein. C'est quelles sont vos propositions? Vous, président de la République, comment est-ce que vous remettrez la France dans la trajectoire de l'accord de Paris? Voilà, c'est ça la question. En fait, c'est la seule question et on va la dérouler. Voilà. Bon, morale de l'histoire, Mélenchon est arrivé pas très bien préparé. C'est pas grave. Ça, bon, c'est pas ma responsabilité, c'est la sienne, je m'en fous. Donc voilà. Donc non, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de menace de. Si vous lui posez une question sur les hydroliennes, il vient pas. Non, je dis ça aussi pour que vous ne vous fassiez pas l'idée, notamment les gens qui détestent Jean-Luc Mélenchon, vous le détestez peut-être pour de bonnes raisons, je m'en fous. Je veux pas non plus que vous vous fassiez l'idée que les équipes de Jean-Luc Mélenchon sont des gens qui essayent de tirer en permanence à eux la couverture, qui essayent de faire des coups, des calculs, etc. Non. C'est des gens qui voient où est leur intérêt, qui ont parfaitement conscience du jeu médiatique, qui essayent pas de manipuler, etc. Donc, ils sont honnêtes, on est honnête. Tu parles de quelle émission? Je parle de l'émission Le Débat du siècle que nous avons organisé en avril dernier, en mars, avril dernier, avec quatre ONG, avec les candidats à l'élection présidentielle en direct sur Twitch pour parler du climat. Donc, ça, encore une fois, je ne sais pas comment travaille BFM TV, je n'ai pas d'informations, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous, c'est leur chaîne, c'est leur crédibilité, etc. Je ne pense pas que la question sur Quatennens c'était une question illégitime. Je ne pense pas que c'était une mauvaise question. Et je ne pense pas que la réaction de Jean-Luc Mélenchon était dans son intérêt, à lui. Je pense pas non plus qu'elle était dans l'intérêt de l'émission. Donc je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hier, c'était pas une bonne séquence pour Jean-Luc Mélenchon ce qui s'est passé. Parce que il a offert sur un plateau d'argent un angle de critique très important pour ses détracteurs. De la même manière que quand Emmanuel Macron, on lui tend un micro et qu'il dit des trucs du genre les gens ont qu'à traverser la rue, je t'en trouve du boulot, moi il suffit de traverser la rue. Ben voilà. C'est une séquence de merde pour Emmanuel Macron. Et là, il tend le bâton pour se faire battre. Hein. Il offre gratos à ses détracteurs un énorme argument de mépris. Voilà, alors, est-ce que c'est le naturel qui revient au galop, peut-être? C'était évident qu'ils allaient poser cette question. Bah oui. Et c'était gratos, et son emportement, et c'est vraiment, c'est ce que je vous disais, l'emportement de Jean-Luc Mélenchon, c'était vraiment pas la bonne manière de répondre à la question, quoi. Il n'a rien fait d'autre que montrer à quel point il était fébrile sur le sujet. Bon, bah c'est une info en soi. Il s'est passé quoi? Jean-Luc Mélenchon a quitté en colère le plateau de BFM TV. Parce qu'une question lui a été posée sur le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale dans le cadre du débat sur la réforme des retraites, qui a provoqué d'ailleurs un tollé à l'Assemblée nationale, et que Jean-Luc Mélenchon s'est emporté, s'est énervé contre les journalistes, leur reprochant un procédé déloyal qui consiste à lui poser une question sans le prévenir avant l'émission que cette question allait lui être posée, et lui poser cette question à la fin de l'émission alors qu'il est fatigué. Je résume à gros traits. Les réponses de Jean-Luc Mélenchon. Il a aussi répondu sur le fond avec Adrien Quatennens en parlant de réhabilitation, etc. machin. Et il a fini par quitter le plateau en colère. Et donc, légitime, c'était hors sujet. À partir du moment où les journalistes qui préparent l'interview estiment que c'est un sujet intéressant qui est utile de porter à la connaissance du public. Le retour d'Adrien Quatennens fait grincer des dents au sein même de la NUPES. Provoque un tollé à l'Assemblée nationale dans le cadre du débat sur la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon est le patron du parti dont Adrien Quatennens est député. Je ne considère que c'est pas illégitime comme question. Moi, voilà, c'est mon point de vue éditorialement, c'est pas une mauvaise question. Alors, est-ce qu'elle est posée au bon moment? Je sais pas. Est-ce qu'elle a été bien posée? Oui, j'ai l'impression. Enfin, on a diffusé un extrait de justement ce qui s'est passé. On est dans l'actu là. On est dans l'actu de la semaine. Ça a eu lieu quelques jours avant. C'est pas un sujet, voilà. C'est jamais illégitime de poser des questions sur un député. Oui, en plus, au demeurant, oui. Oui, on pourrait même extrapoler en disant que oui. Le truc, c'est que voilà, le truc, c'est que Jean-Luc Mélenchon a un rapport très conflictuel aux médias et on le sait et c'est pas nouveau. À part, il faut pas être surpris. Jean-Luc Mélenchon, depuis toujours, ça, c'est un journaliste qui avait fait sa biographie qui avait expliqué qu'en fait, il a toujours eu un rapport conflictuel aux médias, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Thomas Legrand, qui avait expliqué ça dans un de ses billets dans Libération, qui disait que Jean-Luc Mélenchon ne conçoit les journalistes que dans un rapport de servitude ou de nuisance. Soit un journaliste sert la soupe à un politique, soit il essaye de le détruire. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et Jean-Luc Mélenchon est vraiment dans cette logique-là. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Et d'ailleurs, et j'en parlais avec Usul hier en rantaine, c'est exactement ce que fait Jean-Luc Mélenchon au sein du parti. Au sein de la France Insoumise, c'est pareil. T'es avec moi ou t'es contre moi. Bon, c'est comme ça. Jean-Luc Mélenchon est aussi un théoricien, je vous le rappelle hein, quand même, de la conflictualité en politique. Il faut donc conflictualiser. La stratégie de la tension, c'est un truc que Jean-Luc Mélenchon a théorisé. Donc il est en plein. Il est en plein dans sa structure de pensée, de tout est tension. Donc, le rapport avec les pouvoirs sont toujours des rapports de tension. Alors, un rapport de pouvoir et un rapport de classe et de lutte entre la rue, etc., entre le peuple et l'élite, entre le Parlement et le gouvernement, etc. Bon, c'est une philosophie, une manière de voir le monde politique, mais voilà. Si ça avait été Baxi, tu l'aurais prévenu de la question à l'avance. Je sais pas. Non, je pense pas. D'ailleurs, je pense pas qu'on aurait fait une interview entièrement sur les retraites, tu vois, c'est pas le genre de Baxit. Est-ce que tu l'aurais posé cette question? Oui. Oui. Terminé par cette question, c'est pas anodin non plus, faut pas se voiler la face. Commencer par cette question non plus, c'est pas anodin, tu vois. C'est la question de à quel endroit est-ce que tu places la question, tu vois. Moi, par exemple, la question à François Ruffin sur ses ambitions présidentielles, je lui ai posée à la fin. Je sais pas, j'y ai pas pensé, mais maintenant qu'on en parle, vous pensez que c'était un bon moment pour poser la question? J'aurais dû le faire plus tôt, plus tard? J'en sais rien, je sais pas. La critique des médias est légitime, absolument. La critique des médias est légitime, la critique des politiques aussi est légitime. Après 12 minutes, c'est le mieux. Entre 12 et 14 minutes. Est-ce que tu pensais avoir une réponse? J'en savais rien. Merci Fendis. Merci beaucoup. En général, tu parles du sujet principal en début d'interview. Si un autre sujet, c'est à la fin, ça me semble logique. Non? Non, 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 ça, non, non, vraiment, ça dépend beaucoup des interviews, hein. Attention, là aussi, il y a interview et interview, hein. Je vous le redis, il y a les interviews de matinales de radio qui durent très peu de temps, qui sont calibrées, etc. Il y a les interviews de télé en mode coup de poing. Genre RMC, BFM et tout. Il y a les interviews confession, il y a les interviews portrait, il y a plusieurs interviews. Moi, rappelez-vous les émissions que j'ai fait avec Public Sénat pendant 4 ans, questions aux sénateurs, Sénat Stream. J'avais des interviews très spécifiques, hein. On parlait du parcours, on parlait d'abord d'un sujet d'actu, puis on enchaînait sur le parcours, puis on revenait sur la politique. Ça dépend beaucoup des interviews, hein. Il y a les entretiens fleuves dans la presse nationale. Ah oui, j'ai même pas parlé des interviews écrites, mais t'as raison, il y a plein d'interviews écrites aussi. De toutes les façons, l'affaire d'Adrien est devenue la bête noire des LFI. Bah oui, et la faute à qui? Enfin, tu vois, là, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui a fait la démonstration qu'il y avait un énorme problème Quatennens à la France insoumise. C'est en ça que je dis que c'est un drame pour Jean-Luc Mélenchon d'abord. Et pour la France insoumise en particulier, quoi. Voilà, c'est. Je pense qu'ils s'en doutent, hein, la France Insoumise n'attend pas mon opinion là-dessus, ils le savent. Que c'est dramatique pour l'image de Jean-Luc Mélenchon, pour l'image de la France Insoumise. Là, après ce qui s'est passé sur le plateau de BFM, tous les députés insoumis savent très bien que dans les prochains jours, ils vont répondre à la question. On va en tout cas leur poser la question, que pensez-vous de la réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'affaire Quatennens? Bah oui, c'est devenu un sujet, bah oui, bah du coup oui. D'ailleurs, je viens de vérifier, il y a eu aucune question du journaliste, il y a juste attendu une réaction. Ah bah c'est encore mieux. C'est encore pire. Enfin, oui, enfin, tu vois, c'est encore pire pour Jean-Luc Mélenchon. Il aurait tellement pu facilement évacuer le sujet. Tellement. En plus, vous le connaissez comme moi, Jean-Luc Mélenchon. Il est parfaitement capable de répondre, c'est pas un sujet important. C'est pas un sujet important. Les retraites, c'est un sujet important, le mouvement social, les gens. 2 ans de travail en plus, ça c'est un sujet important. Les problématiques individuelles au sein des partis politiques, ça ne m'intéresse pas. Jean-Luc Mélenchon, il sait très bien faire ça d'habitude, hein. Moi, il me l'avait fait hein, quand je lui avais posé la question de la démocratie et de l'installation de ces champs d'éoliennes. Il avait compté à ça en me disant un truc du genre sujet secondaire. Moi, j'étais en mode ouais, ça me paraît un peu important quand même, mais bon, non. Ce qui compte, c'est le cap. Ok, d'accord. Bon. Dont acte. Bon, ben voilà. Du coup, sa réaction n'est-elle pas calculée? On en revient à ce qu'on a une discussion qu'on a déjà eue plusieurs fois avec vous et que je trouve intéressante, c'est est-ce que les politiques calculent tout? Je ne crois pas. Moi, bon, on peut ne pas être d'accord. Hein. Moi, je ne crois pas que les politiques calculent tout. Pour avoir travaillé avec beaucoup de politiques, pour discuter souvent avec beaucoup de politiques, pour échanger avec beaucoup de politiques, non, je ne crois pas que les politiques calculent toutes leurs expressions, etc. C'est pas vrai. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, hier soir, était très sincère. Je pense qu'il était très sincère, je pense qu'il était très ému, je pense qu'il était très fatigué, et je sais qu'il est très vieux. Les quatre sont vrais. Voilà. C'est compliqué d'être dans le contrôle en permanence. Oui, en plus. En plus. Après, comme tu le dis, je pense que c'est l'affection qui ressort. Complètement. Mais complètement. Ça se sentait que Jean-Luc Mélenchon était ému personnellement. C'est pas. C'est très. Il y a un affect très puissant dans cette affaire. On peut pas le nier. Et d'ailleurs, il ne le nie pas lui-même. Hein, il le dit. Il le dit lui-même. Adrien Quatennens, il a une affection pour lui, il le soutient, etc. Bon, bah, très bien. Bah, c'est la preuve que. Alors, déjà, très content, c'est la preuve que les hommes politiques ne sont pas des robots. Il y a un petit cœur qui bat sous l'écharpe tricolore. Ils ont des affects, ils ont des émotions, ils ont des manières de gérer les choses. Ça les tient à cœur pour certains sujets, peut-être plus que pour d'autres. Mélenchon a atteint le point Biden. Je sais pas si Biden il a un affect comme ça, je me rends pas compte. Ah, Biden pour l'âge, ouais. Et je vous ai dit, enfin, bon, chacun y voit ce qu'il veut. Je pense que les soutiens de Jean-Luc Mélenchon peuvent y voir une forme d'humanisme, enfin d'humanité de la part de Jean-Luc qui est fatigué en fin d'interview, etc. Donc il reproche aux journalistes essayer de le piéger, comme il dit, avec une question mesquine. Alors qu'encore une fois, je la trouve vraiment pas mesquine, la question. Mais bon, c'est son point de vue. C'est pas moi le sujet, c'est lui. En fin d'interview. Les détracteurs de Jean-Luc Mélenchon, ils diront, bon, bah voilà, c'est un mec qui n'est pas capable de tenir 2 heures d'interview. Bon, bah ok, dont acte. Il va pas s'emporter sur la colère, mais il est peut-être très émotif. Ouais. Quatennens a pris la place de François Delapierre dans le cœur de Méluche. C'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. François Delapierre, pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, c'est un homme politique qui a été très important pour Jean-Luc Mélenchon, notamment en 2008 quand il a créé le Parti de gauche. C'était un homme assez extraordinaire, hein, François Delapierre. Jean-Luc Mélenchon l'aimait énormément, et il aimait énormément Jean-Luc Mélenchon. Ils ont créé ensemble le Parti de gauche, ils ont lancé l'idée, etc. Et Delapierre est décédé, je ne sais plus en quelle année, mais pas très longtemps après, ce qui a beaucoup affecté Jean-Luc Mélenchon. Et Delapierre était vraiment vu par Jean-Luc Mélenchon comme son héritier naturel. Enfin, il y avait une logique, ils avaient créé le parti ensemble et tout. Et ça a beaucoup ému Jean-Luc Mélenchon, ce que je comprends tout à fait. C'est vraiment une. Ouais, c'est en 2015 le décès, ouais. Et ce que je comprends tout à fait, hein, y a des compagnonnages en politique qui sont très importants. Et le décès d'un compagnon de route comme ça, aussi important pour une personnalité politique, c'est très émouvant. Et c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis, le côté. Quatennens avait pris la place de Delapierre dans le cœur de Jean-Luc Mélenchon, ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, il est mort à 44 ans, il est mort très jeune, ouais. Une vraie perte. Oh, je pense qu'on peut le dire, une vraie perte pour Jean-Luc Mélenchon, une vraie perte pour la gauche. Un bonhomme qui était très respecté. C'est vraiment un sujet, la réaction de Mélenchon. Bah, c'est un sujet de débat sur Twitter. Tu me diras, c'est pas un bon indicateur. Et c'est un sujet que je trouve intéressant parce que ça soulève la question de comment est-ce qu'on prépare des interviews politiques. Et c'est en ça que moi j'avais, je pense, des choses à vous dire aujourd'hui. C'est comme c'est mon métier d'organiser des interviews politiques. J'essaye de vous informer et de vous dire comment ça se passe, en tout cas comment moi je fais. Encore une fois, je ne sais pas comment fait BFM TV. Je ne travaille pas pour eux. Je ne suis pas de la rédaction de BFM TV. Mais je sais aussi comment ça se passe dans les médias pour beaucoup d'entre eux. Donc si je peux vous aider à comprendre comment ça fonctionne, c'est ça qui m'intéressait. Bon, ma petite opinion à moi sur Jean-Luc Mélenchon et sa réaction, c'est pas très intéressant. Mais voilà. Est-ce que tu penses que la carrière politique de Quatennens est totalement terminée ou peut-il renverser la balance à l'avenir? Je sais pas. Je sais pas. T'as l'air déçu de ce sujet quand même. Non, mais j'ai pas d'affect personnel. Si, ça me fait chier parce qu'il y a encore évidemment les journalistes en prennent plein la gueule par les gens qui ne, encore une fois, qui ne perçoivent les journalistes que comme des. Soit des serviteurs, soit des turéfières, turéfactaires, je sais plus comment on dit. Et ça me saoule parce que je trouve ça bêtement nul comme manière d'envisager le travail des journalistes. Après, bon, mon métier, c'est pas de défendre les journalistes, hein, ils se défendent déjà très bien tout seuls. Turéfière, turiféraire, 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 merci. Thanatopracteur. S'attaquer à BFM, ce n'est pas s'attaquer à tous les journalistes. Exactement. Alors s'attaquer déjà, si on pouvait essayer de sortir du jargon militaro-violent, en parlant plutôt de critique ou de contestation, je préférerais. C'est comme quand Jean-Luc Mélenchon dit vous essayez de le détruire. Non, personne ne veut détruire personne. On ne détruit rien, on pose une question. Je suis pas sûr qu'il faille reprocher quoi que ce soit à BFM, les deux parties sont responsables. Bah, c'est que déjà, il faudrait se mettre d'accord sur ce dont on parle avant de savoir s'il y a des responsabilités, tu vois. Est-ce que BFM TV a commis une erreur? Moi, je crois pas. Est-ce que BFM TV a manqué d'élégance? Peut-être. Est-ce que BFM TV a un devoir d'élégance vis-à-vis de ses invités politiques? Je pense pas, mais c'est mon point de vue. Est-ce que les journalistes doivent donner la liste de leurs questions avant l'interview aux invités? Non, je ne le crois pas. En tout cas, ça m'énerverait beaucoup que ce soit une pratique courante. Et je vous redis que non, ce n'est pas une pratique courante, contrairement aux fantasmes qu'on peut avoir. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon était sincère? Oui, je le pense. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a commis une erreur? Oui, je le pense. Voilà. Bon. En général, ils indiquent uniquement les thématiques générales de l'interview. Ouais, c'est ce que je disais, Denis, tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais. Moi, c'est ce que je fais avec mes invités politiques. Encore une fois, je ne sais pas comment fonctionne BFM TV, mais moi, ma méthode à moi, c'est de dire à mon invité, et j'ai bien dit de lui indiquer, mais sous forme informative, je ne lui soumets pas à son approbation, je dis à mon invité les grands thèmes sur lesquels j'ai l'intention de l'interroger. Voilà. Et parfois, ça m'arrive de demander à mon invité politique, y a-t-il des dossiers sur lesquels vous travaillez en ce moment que vous souhaiteriez aborder? Ça m'arrive. Et parfois, j'ai des députés ou des sénateurs qui me répondent, oui, je suis en ce moment, j'ai été nommé à la commission, machin, je suis rapporteur du rapport sur tel sujet. Et soit j'estime qu'effectivement c'est intéressant et donc je lui dis, ah bah ok, merci de m'avoir prévenu. Je vous poserai une question sur ce sujet, je pense. Je vais y réfléchir, mais je vais essayer de vous poser une question. Soit j'estime que c'est vraiment un sujet de merde et je lui dis poliment, bon bah s'il me reste du temps, je vous poserai une question à la fin. Ce qui en fait veut dire, bon, si vraiment j'ai plus rien à te dire. Bientôt 120 000 balles. Bientôt 120 000 balles, incroyable. Il y a des sujets opportuns selon la discussion. Oui, il y a des sujets opportuns selon l'angle de ton interview. C'est encore pas. Encore une fois, je vous le dis, il y a les interviews d'actu, il y a les interviews portraits, il y a les interviews au long cours, il y a les interviews philo, il y a les interviews clash. Il y a plein d'interviews différentes. Est-ce que les politiques restent papotés après l'émission? Ouais, en général, ouais. Ouais, bon, en même temps, on leur offre un coup à boire, donc ils sont contents. Mais ouais. Ouais, les politiques, ils boivent un coup. Ils restent pas très longtemps, parce qu'en général, ils sont fatigués, ils ont du boulot et tout. Mais ouais. Les t-shirts Baxit sont livrés à l'étranger. C'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée, monsieur Elkabbach. J'en sais rien, Claire. Mais je pourrais t'en envoyer un si tu veux. C'est l'occasion d'obtenir du off. Ouais, carrément. Oui, carrément. Bah hier, du coup, Ruffin, il est resté. J'ai un peu papoté avec lui. Je l'ai remercié encore une fois d'être venu répondre à nos questions. Je l'ai remercié pour sa pédagogie, etc. Et puis on a un peu papoté de l'actualité et tout, voilà. Rien de surprenant. Il m'a dit que des trucs que je savais déjà. Je lui ai dit que des trucs qu'il savait déjà. Il a papoté un peu avec Raphaël parce qu'il avait lu le livre de Raphaël. Et Raphaël a lu les livres de François Ruffin. Est-ce qu'il était content, Ruffin? Il avait l'air. Mais comme je vous l'ai déjà dit, moi je ne travaille, enfin je ne cherche pas à plaire aux invités politiques. Que mes invités soient contents ou pas de leur passage sur Baxit, ça ne m'intéresse pas. La seule mesure du succès, c'est le public. Les politiques, s'ils ne sont pas contents de leur prestation sur mon plateau, eh bien, écoute, je suis désolé. Moi, je ne suis responsable que de mes questions. À toi d'apporter des bonnes réponses. Merci, The Girls Play 2. Merci beaucoup. Toi, tu as la responsabilité aussi du bon accueil. Oui, mais il faut être précis sur ce qu'on appelle un bon accueil. Mon job est de faire preuve de la courtoisie la plus élémentaire vis-à-vis des personnes que j'invite. Donc de les recevoir dans de bonnes conditions, respectueuses, etc. Mon job est de les mettre dans des conditions qui permettent de donner la meilleure interview selon mes critères à moi, pas selon les leurs. Donc je suis pas conseiller politique, hein. Je suis pas conseiller en com. Moi je donne pas de conseils aux politiques avant de rentrer sur le plateau sur alors je vous suggère de répondre comme ci, comme ça. Non, non. Je les préviens du cadre. Et vous vous démerdez. Et donc voilà, c'est tout. Mais bon accueil, ça veut pas dire je suis pas aux petits oignons. pour que tout ça lui convienne? Est-ce que vous voulez que je vous pose telle question? Y a-t-il des questions que vous ne voulez pas que je vous pose? Est-ce qu'il y a des sujets tabous où vous voulez pas parler? Qu'est-ce qui vous arrangerait comme question? Non, je pose jamais sa question. Non, non. Je joue pas à ça. Est-ce que ça génère des revues d'invitation au final, cette position? Non. Et s'il dit, s'il vous plaît, pas de questions là-dessus. Bah, si on est juste avant de rentrer sur le plateau, c'est trop tard. Si on est juste avant d'entrer sur le plateau et qu'il me dit, ouais, je veux pas répondre à de questions là-dessus, je vais être en mode. Bah, je sais pas ce que mes chroniqueurs ont prévu comme question. On verra bien. Mais là, c'est dommage pour toi parce que c'est un peu tard là. Et si avant l'émission, il me dit oui, j'accepte de venir sur votre plateau si vous ne me posez aucune question sur tel sujet, alors à ce moment-là, c'est non. Et ça m'est déjà arrivé de refuser un invité politique parce qu'il avait voulu mettre ce genre de conditions. Et moi, j'ai dit non. Bon, non. Voilà. Mais ça m'est arrivé qu'une fois. Et finalement, je l'ai reçu plus tard, donc. Toutes les questions sont bonnes, sauf les questions sur la vie privée. Oui, sauf si la vie privée joue un rôle politique. Ce qui est rare, mais ce qui peut arriver. Voilà. Donc, mais si la vie politique, si la vie privée ne porte aucun caractère informatif, effectivement, ça. Voilà. Genre Quatennens, très bon exemple. Quatennens, très bon exemple. Ouais, quand c'est jugé par un tribunal, c'est plus très privé, quoi. Tu discutes pas avec les chroniqueurs des questions qu'ils vont poser? Si. Mais j'ai pas le détail, hein. Et puis je sais pas s'il reste. Enfin, il y a des questions qu'on prévoit, mais qu'on peut pas poser parce qu'on a plus de temps. Merci dans ton Cubitus pour ton Prime. Ah, des fois, il y a des chroniqueurs, ils sortent du plateau, ils me disent « Ah oh, non, je suis frustré, j'aurais voulu poser ma question sur tel sujet. » Je dis « Ouais, mais en même temps, t'as été con, tu lui as posé une question de merde. » Et il me dit « Ouais, je sais, je m'en veux, putain. »« Ah non, mais j'avais pas mesuré qu'on n'aurait pas assez de temps à la fin et tout. »« Ah non, mais les gars, rushez vos sujets d'intérêt, hein, vous êtes chiants. » Après, vous me regardez sur le plateau en me disant « S'il te plaît, Jean, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi la parole et tout. »« Non, mais les gars, hé, on n'a plus le temps, là. La question à Laurence Rossignol de Léa a été vue avec toi? Bah on l'avait. Oui, enfin on en avait parlé pendant la réunion de préparation. On voulait parler du rapport sur du rapport du Sénat. Enfin du rapport du Haut Conseil à l'égalité, avec Laurence Rossignol, qui est une sénatrice qui fait partie des piliers de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Et parmi les sujets qui nous semblaient intéressants d'aborder, il y avait la question du rapport à la transidentité. Et c'est Léa qui a souhaité poser la question. Donc, allez, ouais, vas-y. Pitié, pitié, une dernière question. Mais ils me font le coup à chaque fois. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais les gars, on n'a plus le temps, là, on est en retard. Vous êtes chiants. Il y a le quiz à la con, là, qui doit démarrer. Pourtant, l'émission a fini plus tôt hier. Non, mais hier, c'était une émission contrainte, ouais. Hier, on avait des contraintes de temps parce qu'on avait des créneaux à respecter très précis en fonction des invités. Tout ça peut arriver, bon, c'est pas grave. Ça s'est bien passé. Faut rallonger l'émission. N'hésite pas à faire un don. Et oui, enfin, t'es marrant, faut rallonger l'émission. Faut voir dans quel état je finis l'émission, moi, après, hein. C'est de la calorie dépensée, hein, animer une émission comme Backseat. Alors c'est du plaisir, hein, je dis pas. Mais bon. Il y a un moment, le principal facteur limitant de la durée des émissions, c'est mon état de fatigue. Hein. Essaye la drogue. Ouais, enfin voilà, c'est pour finir comme Hanouna, je te jure que j'ai pas envie. Tu vois. Voilà. Je me défonce déjà suffisamment au café et au travail et à la clope. Je pense qu'on va. Hein, c'est déjà pas mal. J'ai pas envie de faire durer mes émissions 4h30 pour le plaisir. Autant un stream seul chez moi, là, comme ça peut durer 4 heures. Je sais plus, on en avait parlé la dernière fois avec les modos, je crois. Moi, ma durée. Parce que là, par exemple, il a commencé à quelle heure le stream? Il a commencé à 16 heures. Là, ça fait que 1h40. Tranquille. Là, je suis à la maison, je suis en pyjama, je suis tranquille, on discute, j'aime bien. Et là, c'est pas fatigant pour moi, c'est plutôt cool. En général, mes streams à la maison, quand ils durent à partir de 3h30, 4h. Ouais, mais ça dépend en fait. En fait, ça dépend. Si c'est 3h30, 4h de jeux vidéo, je suis très en forme, il n'y a aucun problème. Flight Simulator et tout, peinard, chill, c'est cool. Donc vraiment, un stream Flight Simulator, ça peut durer 7 heures, voilà. Un stream revue d'actu, donc quand je lis des articles, là en général, au bout de 3 heures, 3h30, j'ai vraiment le cerveau qui commence à griller, donc j'ai une fatigue intellectuelle qui fait que j'arrive plus à parler et tout. Les streams de commentaires de débats parlementaires, ça dépend des débats. Mais pareil, au bout de 2h30, 3h, ça commence à être dur. Et les streams de just chatting comme ça avec vous, ouais, ça peut être 4 heures, ouais. Voilà, donc ça dépend. Ça dépend du niveau d'intensité que me demande l'objet. Imaginez pour nous les profs. Ah, bah ça. Ça. Event, c'était comment? Ah, mais aux Event, c'est des conditions pas comparables. Le The Event, t'es porté par l'adrénaline. Le The Event, c'est un espèce de rêve éveillé qui dure 2 jours. Non-stop. Donc, t'as une dose d'adrénaline qui est tellement puissante que de toute façon, tu fais des sessions de 14 heures d'affilée, c'est. Le The Event, c'est très particulier, hein. C'est vraiment des conditions très très spéciales. Tu veux dire qu'on ne te procure aucune adrénaline? Bah, quand tu te seras abonné à ma chaîne, la notification de ton abonnement va générer dans mon cerveau la libération d'une petite dose d'endorphine ou de sérotonine, ça dépend. Et après, ils sont tous malades. Ah, le retour du The Event, il faut bien 2-3 jours pour s'en remettre, ouais. Mais comme c'est que du bonheur. Mais je vous avais dit au The Event que on est tellement excité, on est tellement porté par l'adrénaline que quand on est crevé, qu'on va se coucher, pendant le The Event, quand on va dormir, on n'arrive pas à s'endormir. Merci Vrael22 pour cette dose de sérotonine. Merci Uzagisho. Merci beaucoup. Quand on va se coucher, on se retrouve allongé dans notre lit, on regarde le plafond et en général on met 1 heure ou 2 à s'endormir tellement on a d'adrénaline. Genre c'est impossible de s'endormir aux The Event. Vraiment, t'es là, tu regardes le plafond, tu fais bon, faudrait quand même que je dorme. Mais là. Donc ouais, non, le facteur limitant pour la durée de Baxit, c'est mon état de fatigue. Et ça. Enfin bon, chers amis. On va faire un raid, je vais m'arrêter là pour ce soir. On va faire un raid chez les amis de la Comeback TV, puisque c'est en ce moment les championnats du monde de StarCraft 2, un jeu que j'affectionne beaucoup, qui est commenté par les copains de la Comeback TV. Aujourd'hui, dans le group stage, je crois qu'il y a le français Clem qui joue. Est-ce qu'il joue en ce moment? Je crois, je suis pas sûr. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. J'espère que ça vous a plu de le suivre. Merci à vous d'avoir suivi Backseat hier. Merci pour vos dons. Je vous fais des bisous. Profitez bien des championnats du monde de StarCraft 2 qui ont commencé en début de semaine. Et on a du très très gros niveau cette année. Ça fait trop plaisir. Kiffez bien. Bonne soirée. Passez un bon week-end. Demain soir, je serai chez Samuel Etienne. Demain soir, je suis chez Samuel Etienne à partir de 20h. Allez, à demain. Des bisous. Ciao, bye.